Bonjour, au micro Idrissa Seloudia, Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Au Niger, 13 combattants de Boko Haram ont été tués lors d'accrochages mardi avec l'armée et 4 civils à bord d'un bus intercepté ont été exécutés par les djihadistes de sa branche ISWAP dans le sud-est du pays, selon un communiqué hier de la force multinationale mixte qui associe Nigeria, Tchad, Cameroun et Niger. L'activiste nigérian Sande Igboho, qui milite pour la création d'une nation Yoruba dans le sud-ouest du Nigeria, est connu pour ses discours incitant à la haine ethnique, est en fuite après une descente de la police jeudi dans sa maison, selon un communiqué des autorités. Il y a moins d'une semaine, le leader indépendantiste biafré Nnamdi Kanu, qui prône lui la sécession du sud-est, a été arrêté. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la mort de 10 personnes à Beni, un nouveau massacre attribué au groupe armé ADF, a provoqué hier la colère des habitants contre l'impuissance des autorités malgré l'instauration de l'état de siège dans la région. Les FARDC ont dit hier soir, dans un communiqué, avoir neutralisé 5 ADF responsables de cette attaque. Coronavirus, le docteur Machidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, a déclaré que tous les records établis par les pics précédents ont été battus. La vitesse de contamination et l'ampleur de la troisième vague qui touche l'Afrique ne ressemblent en rien à ce que nous avons connu jusqu'à présent. La propagation galopante de variants plus contagieux modifie considérablement la nature de la menace qui pèse sur l'Afrique, a-t-elle dit. Pour elle, il faut agir dès à présent pour renforcer les mesures de prévention et éviter qu'une situation d'urgence ne se transforme en tragédie. Le docteur Jean-Jacques Muyembe, directeur de l'Institut national de recherche biomédicale de la RDC et chef de la riposte contre le COVID-19 dans ce pays, a de son côté mis en garde contre une éventuelle catastrophe si le variant Delta continue de se propager rapidement au Congo, estimant que les hôpitaux et les morgues sont débordés. En Tunisie, où le nombre de nouveaux cas et de décès atteint un niveau record, la capitale Tunis et Bizerte ont été placés en confinement partiel jeudi. Les rassemblements y sont interdits et les cafés et restaurants ne peuvent plus servir qu'en terrasse ou à emporter. L'OMS a aussi averti jeudi un risque de nouvelle vague de la pandémie portée par le variant Delta en Europe. Les États-Unis ont expliqué hier que la pandémie avait créé un environnement idéal pour que le trafic d'êtres humains se développe à travers le monde, les gouvernements redirigeant leurs ressources vers la crise sanitaire, tandis que les trafiquants ont profité pour cibler les plus vulnérables. Israël a mené des frappes aériennes sur des cibles islamistes à Gaza en représailles, dit-il, à des lancers de ballons incendiaires depuis l'enclave palestinienne et en provoqué des incendies en Israël. Afghanistan, les troupes américaines et de l'OTAN ont toutes quitté la base aérienne de Bagram, annonce un responsable militaire américain, affirmant que le retrait de la totalité des forces étrangères présentes en Afghanistan était imminent. Le ministre américain de la Justice, Merrick Garland, a annoncé hier imposer un moratoire sur les exécutions fédérales en dénonçant leur aspect arbitraire et leur impact disproportionné sur les personnes de couleur. La Cour suprême des États-Unis a validé jeudi des lois électorales controversées de l'État d'Arizona, une décision qui pourrait peser sur l'accès au droit de vote des minorités, enjeu de lutte politique historique dans le pays. En Floride, où se sont rendus hier le président Joe Biden et son épouse Jill, les familles perdent peu à peu l'espoir de retrouver des survivants parmi les plus de 140 personnes toujours portées disparues après l'effondrement d'un immeuble il y a une semaine à Surfside, a estimé M. Biden. Espace, le Britannique Richard Branson a annoncé qu'il prévoyait de s'envoler dès le 11 juillet à bord d'un vaisseau de Virgin Galactic. Il espère coiffer au poteau son rival Jeff Bezos, dont le voyage est prévu le 20 juillet. La suite de nos informations. Au Nigeria, attendue depuis 2008, la réforme du secteur pétrolier a enfin été adoptée hier jeudi par le Parlement. C'est un moment historique pour le premier producteur d'or noir en Afrique qui a urgemment besoin de maximiser ses revenus. Le point avec Rosine Mounezero.
Les deux chambres ont approuvé la loi pétrolière. Ce projet, soumis une première fois en 2008, a été plusieurs fois débattu et réécrit à l'Assemblée en raison de désaccords entre le gouvernement et les grandes compagnies pétrolières, mais aussi entre l'exécutif et les assemblées. Femi Gadjabiamila, président de l'Assemblée nationale, s'est félicité d'une importante victoire après 20 ans d'attente. Les deux chambres doivent maintenant s'accorder la part de redistribution aux communautés dans les zones d'extraction, une fiscalité plus encadrée, une meilleure redistribution des richesses et surtout la transformation de la Nigeria National Petroleum Commission, réputée pour être la caisse noire de l'État, en une société commerciale. Avec plus de 210 millions d'habitants, le Nigeria est le premier producteur du pétrole d'Afrique, avec 1,9 million de barils par jour. Le secteur a la réputation d'être corrompu et peu productif, avec des infrastructures délabrées et peu d'investissements malgré les réserves gigantesques du pays. La première économie d'Afrique souffre d'une grave crise économique après s'être difficilement relevée d'une récession en 2017. Les cours du brut ont chuté en dessous des 20 dollars en 2020 et sont remontés autour des 60 dollars, mais l'avenir reste sombre. Le pays importe un très grand nombre de ses biens de consommation. En un an, l'inflation a dépassé les 18% et a fait basculer environ 7 millions de Nigérians dans la pauvreté.
L'Éthiopie appelle les forces du Front de libération du peuple du Tigré à adhérer au cessez-le-feu unilatéral qu'elle a proclamé après avoir perdu le contrôle de Mekelle, la capitale de la région. Jacques Aristide.
Pour le gouvernement éthiopien, c'est à la partie adverse de réagir pour permettre la mise en œuvre effective du cessez-le-feu. La décision de suspendre les hostilités a été prise unilatéralement de notre côté. Mais bien sûr, pour mettre pleinement en œuvre un cessez-le-feu, il faut être deux pour danser le tango, a déclaré hier le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Dina Moufti. En début de semaine, les troupes du TPLF ont repris Mekelle, un tournant majeur après bientôt 8 mois de combat. Le conflit a déjà fait des milliers de morts. D'après l'ONU, au moins 350 000 personnes se trouvent en situation de famine dans la région, ce que conteste le gouvernement éthiopien. Les États-Unis estiment de leur côté que 900 000 personnes sont vraisemblablement déjà en train de faire face à des conditions de famine. Hier, l'International Rescue Committee a déclaré qu'un pont situé sur un axe crucial pour la livraison de l'aide alimentaire a été détruit, ce qui signifie, selon l'ONG, que les efforts humanitaires vont être encore plus gênés que par le passé.
Alan Weisselberg, directeur financier de la Trump Organization, a plaidé hier non coupable de 15 chefs d'accusation liés à des fraudes fiscales au tribunal de Manhattan à New York. L'entreprise de l'ancien président américain dénonce une inculpation purement politique. Le point avec Lionel Gahima.
Alan Weisselberg, 73 ans, proche de l'ancien président Donald Trump, est arrivé au tribunal hier menotté. Il est accusé d'avoir délibérément dissimulé au fisc 1,7 million de dollars d'avantages en nature entre 2005 et 2021, ce qui lui aurait évité de payer près d'un million de dollars en impôts. Réaction, la Trump Organization a accusé le procureur Cyrus Vance, un démocrate, de poursuites politiquement motivées. M. Vance mène des enquêtes depuis plus de 2 ans sur des possibles malversations au sein du groupe. Il lance des poursuites liées à des avantages accordés à un employé que ni le fisc ni aucun autre procureur ne songerait à lancer, a affirmé un porte-parole de l'entreprise familiale. Alan Weisselberg est utilisé comme un pion pour essayer de nuire à l'ancien président Donald Trump, a-t-il ajouté. Ce n'est pas de la justice, c'est de la politique, selon son avocate Murray Mulligan, qui a indiqué qu'elle allait se battre jusqu'au bout contre ces accusations. Le directeur financier est accusé d'avoir dissimulé un appartement dans un quartier huppé de Manhattan, entre autres. Ces inculpations sont les premiers fruits d'une enquête lancée il y a plus de 2 ans par Cyrus Vance, et à laquelle participe également la procureure générale de l'État de New York, Letitia James. Elle est aussi élue démocrate.
La Minute Éco, John Linden. Attendue depuis 2008, la réforme du secteur pétrolier au Nigeria a enfin été adoptée jeudi par le Parlement. Un moment historique pour le premier producteur d'or noir en Afrique qui a urgemment besoin de maximiser ses revenus. Cette loi ambitionne donner un cadre légal et fiscal à l'industrie du gaz et du pétrole nigérian. Et les changements s'opèrent autour de trois axes principaux. Une fiscalité plus encadrée, une meilleure redistribution des richesses et la transformation de la Nigerian National Petroleum Commission, réputée pour être la caisse noire de l'État, en une société commerciale. L'État du Mali, à travers la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique, vient de lever 25 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine à l'issue de son émission d'obligations de relance du Trésor de maturité 7 ans. Les émissions d'obligations de relance sont initiées par l'agence Umoa Titres en collaboration avec la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. La Banque mondiale a décidé d'augmenter de 8 milliards de dollars pour le porter à 20 milliards son plan d'aide en direction des pays en développement afin de faciliter leur accès aux vaccins. C'est ce qu'a annoncé son président David Malpass. L'institution qui avait approuvé en octobre dernier l'octroi initial de 12 milliards de dollars n'a pour l'heure dépensé que 4 milliards de dollars via des projets dans 51 pays, dont la plupart en Afrique.
Merci John. Et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Les quarts de finale de l'Euro débutent ce soir. Le match au sommet opposera la Belgique à l'Italie à Munich. On va attendre la dernière minute avant de prendre une décision sur la disponibilité d'Eden Hazard et de Kevin De Bruyne. Blessé, a annoncé hier le sélectionneur Roberto Martinez. Kevin De Bruyne et Eden Hazard, sortis blessés dimanche contre le Portugal en huitième de finale, étaient absents hier du dernier entraînement de la Belgique. Le défenseur Jason Denayer, absent de l'entraînement mercredi, a lui participé normalement à la séance d'hier. Les Diables Rouges sont arrivés à Munich hier soir avec Hazard et De Bruyne dans leur rang. Avant ce choc, le premier quart de finale mettra aux prises l'Espagne et la Suisse. Après avoir éliminé respectivement la Croatie et la France, la revanchade Rora et la décomplexée Nati s'affrontent à Saint-Pétersbourg pour décrocher le premier billet pour le dernier carré de l'Euro contre la surprenante Suisse, cette Espagne rajeunie par Luis Enrique. À l'occasion de prouver qu'elle est de retour sur le devant de la scène continentale, 9 ans après le dernier épisode de son triplé historique Euro 2008, Mondial 2010 et Euro 2012. Parlant justement de l'Espagne, son ancien capitaine Sergio Ramos, libéré de son contrat au Real Madrid, aurait trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain. C'est ce qu'annoncent les médias sportifs espagnols. À 35 ans, le défenseur central espagnol non retenu avec la Roja pour l'Euro, en raison d'une blessure, aurait réussi à négocier un contrat de 2 ans et le salaire serait maintenu à un niveau similaire à ce que lui offrait le Real Madrid, autour donc de 10 millions d'euros nets par saison. Détail le journal AS. Et pour finir, pour la première fois, Lionel Messi est libre. Depuis hier, le septuple Ballon d'Or n'est plus salarié du FC Barcelone et tient la planète football en haleine. C'est le feuilleton du mercato d'été. Depuis son premier contrat signé sur un bout de serviette le 14 décembre 2000, la superstar argentine qui vient de fêter ses 34 ans le 24 juin dernier a toujours été liée au Barça. Et même si le président du club Blaugrana, Juan Laporta, a joué l'apaisement mercredi en lâchant un bref tranquillo aux journalistes, l'avenir de Lionel Messi fait trépigner d'impatience les supporters Blaugrana et fait rêver en secret les richissimes clubs d'Europe. Selon la presse, une proposition de contrat a été envoyée à Messi, qui n'a toujours pas accepté, mais le club Blaugrana dit rester confiant.
Merci, Yacouba. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sebulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur le récent remaniement au Burkina Faso, où le président Roch Marc Christian Kabore a donc limogé mercredi ses ministres de la Défense et de la Sécurité et repris le portefeuille de la Défense. Un remaniement sous la contrainte populaire. L'opposition dit prendre acte, mais a maintenu les manifestations prévues ce week-end. Les Burkinabés aussi donnent leur avis sur ce nouveau gouvernement. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Le président Kabore a aussi nommé comme ministre délégué à la Défense le colonel-major Barthélémy Sempore, ancien attaché de défense du Burkina Faso à Washington jusqu'en 2019. Maxime Koné, qui était jusque-là ministre délégué à la coopération, a lui été nommé au poste stratégique de la sécurité. Kabore lui-même reprend la Défense, un poste qu'il détenait jusqu'en 2017. Les marches de l'opposition restent toujours maintenues pour le week-end prochain. Ce jeudi, ce nouveau gouvernement s'est réuni pour la première fois. Christophe Dabiré, Premier ministre.
Aujourd'hui, notre peuple a besoin d'aller de façon unie contre le terrorisme. Il ne faut pas qu'on se trompe d'ennemi. Quand le pays est en danger, il faut que l'on sache raison garder. L'opposition a le droit de marcher, mais nous disons tout simplement que est-ce que réellement c'est le moment?
L'opposition n'est pas satisfaite de ces changements. Eddy Kombeugo, chef de file de l'opposition.
Nous constatons qu'il a nommé un militaire, un colonel-major comme ministre délégué à la Défense. Non, je pense qu'il n'a pas encore compris. Ça fait 5 ans, sinon 6 ans que nous sommes en guerre. Nous n'attendons pas un ministre délégué à la Défense. Nous attendons un ministre d'État à la guerre. C'est ce qu'il faut pour que la conscience, pour qu'il ait tout le monde comprenne que c'est très sérieux cette guerre.
Dans les rues de Ouagadougou, les populations réagissent de ce nouveau gouvernement.
Bon, c'est pas le gouvernement en tant que tel, il a changé des ministres. Alors on va voir ce que ça va donner. Ça pourra aller parce que déjà un militaire qui est ministre délégué.
Chacun se pose des questions sur comment on va faire pour arrêter, comment on va faire pour lutter. Ce nouveau changement-là va permettre peut-être aux gens de mieux s'organiser et de mieux repartir maintenant les différentes régions, les différentes zones où ils vont pouvoir intervenir.
Est-ce que ce remaniement aura un impact dans la gestion du pays? C'est à cette question que répond Pazien, analyste politique.
Ce remaniement ministériel aura au moins le mérite de désamorcer les cœurs au sein de l'armée et au sein des forces de défense et de sécurité. Mais il est clair que ce remaniement n'aura pas un effet direct sur les revendications des populations parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'ensemble des autres ministères sont restés.
Un réaménagement du gouvernement qui intervient à quelques jours d'une manifestation de l'opposition qui entend dénoncer samedi et dimanche une conduite désastreuse de la question sécuritaire du pays. Ces manifestations restent toujours maintenues. Lamine Traoré, Ouagadougou, VO Afrique.
Les Américains vont célébrer l'indépendance de leur pays le 4 juillet avec une nouvelle statue de la liberté appelée la Petite Sœur, une fois de plus envoyée par la France pour célébrer les valeurs démocratiques partagées. C'est dans un contexte de réchauffement des liens transatlantiques. Reportage de Lisa Bryant à Paris et récit d'Abdourahman Dia.
Avec moins de 3 mètres de haut et près de 450 kg, la statue est appelée la petite sœur de la beaucoup plus grande statue que la France a expédiée à New York en 1885. Elle passe le 4 juillet dans le port de New York, juste en face de l'original sur Liberty Island. Elle sera ensuite exposée à l'ambassade de France à Washington pour la fête française du 14 juillet et y restera pendant une décennie. Olivier Faron est historien, il est administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers.
C'est une statue emblématique et elle pourrait bien sûr représenter la liberté, mais c'est aussi un point très important pour les relations entre la France et les États-Unis dès la fin du 19e siècle quand elle a été envoyée aux États-Unis. Je pense que maintenant, quand nous essayons d'échapper à la situation de pandémie, quand nos pays ont une nouvelle page de leur histoire avec un nouveau président, pour nous, la nouvelle relation entre les États-Unis et l'Europe a une signification politique importante pour nous aussi.
C'est au Sénat que l'œuvre en bronze était logée avant son voyage aux États-Unis. Olivier Faron.
Je pense que maintenant, quand nous essayons d'échapper à la situation de pandémie, quand nos pays ont une nouvelle page de leur histoire avec un nouveau président, pour nous, la nouvelle relation entre les États-Unis et l'Europe a une signification politique importante pour nous aussi.
L'œuvre du sculpteur français du 19e siècle Frédéric-Auguste Bartholdi, la statue de la liberté originale, reflète l'une des plus anciennes alliances de l'Amérique à la France durant la révolution américaine contre la Grande-Bretagne. Nicole Baccaran, analyste politique française, spécialiste des États-Unis.
Pour nous, il est important de rappeler que certains hommes politiques français étaient très engagés pour développer la liberté, pour aider les Américains à être complètement libres. Je pense que c'est vraiment cool. C'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de joyeux. C'est à propos de valeurs sur les vieilles amitiés et les vieilles alliances qui doivent survivre. Et c'est un cadeau. Ça fait vraiment du bien.
L'arrivée de la nouvelle statue aux États-Unis intervient après que le président Joe Biden a effectué sa première visite en Europe pour renforcer les liens transatlantiques qui se sont détériorés sous l'administration Trump. La statue de la liberté originale, envoyée aux États-Unis à la fin de la guerre civile, avait pour but de renforcer les relations diplomatiques avec Washington. Les statues représentent des chaînes et des fers brisés au pied de Lady Liberty, symbolisant la fin de l'esclavage et la liberté. Deux sujets qui font encore débat, comme le montre le mouvement mondial Black Lives Matter. Nicole Baccaran.
Everybody in Europe has been very pleased. Tout le monde en Europe a été très satisfait de l'attitude de Joe Biden envers l'OTAN et l'Europe en général. Tout le monde est parfaitement conscient que le leadership américain n'est peut-être pas du tout solide et que ce n'était peut-être qu'un moment de pause. Alors oui, bienvenue. Nous sommes heureux de vous voir. Nous savons ce que nous avons en commun, mais nous sommes prudents.
Des dizaines de répliques sont aussi en France et ailleurs dans le monde, notamment au Kosovo, en Ukraine et au Mexique. Il y en a aussi une à Paris, donnée à la France par des citoyens américains vivant ici en 1899 pour célébrer la Révolution française.
Vous êtes à l'écoute de VOA.
L'ancien chef du Pentagone, sous George W. Bush et Gerald Ford, Donald Rumsfeld, est mort à 88 ans. Cet homme, considéré comme un faucon dans le Parti républicain, a été l'architecte de la guerre d'Afghanistan et de l'invasion de l'Irak, un conflit dont l'enlisement lui a finalement coûté son poste. Qui était Donald Rumsfeld? La réponse d'Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines.
Donald Rumsfeld est une personnalité politique du Far West américain. Il était membre de la Chambre représentante, donc il était un député. Après, il était ministre de la Défense deux fois. Une fois pour président Gerald Ford et une fois pour président Bush 43.
Et ce qu'on retient surtout de lui, c'est les guerres d'Afghanistan et d'Irak qu'il a aidé à déclencher.
Oui, oui, c'est vrai. Et je crois que sa réputation est tombée à cause de ça, parce que l'Irak, il a dit que nous devons faire la guerre contre l'Irak, parce que le président Saddam Hussein, il a ramassé une grande quantité d'armes de guerre très lourdes. C'était des destructions massives. Il a dit il faut aller en Irak pour confisquer tout ça. Mais finalement, c'était un grand mensonge.
Oui, on n'a pas trouvé ces armes-là.
Après la guerre, on a envoyé des instructeurs, il n'y avait pas d'armes. Donc, et aussi pour l'Afghanistan, bien sûr, l'Al-Qaïda a déclenché le 11 septembre à partir d'Afghanistan, mais ce n'était pas nécessaire de faire 15 ans de guerre en Afghanistan à cause de ça. Il fallait chasser l'Al-Qaïda, ce qu'ils ont fait, mais ce n'était pas nécessaire de faire la guerre contre le Taliban, à mon avis.
Oui. On se rappelle aussi de cette image avec George Bush, avec le bateau pour dire que l'Irak avait été libéré.
Oui, c'est ça. Oui, c'est un porte-avions, oui. Mais finalement, ce n'était pas libéré. c'était le commencement d'une grande guerre civile entre les sunnites et les chiites, avec l'ingérence de l'Iran. L'Irak est un grand désastre à cause de cette guerre.
Mais il a quand même laissé un grand impact sur la présence américaine dans le monde.
Oui, bien sûr, il a fait des bonnes choses en Europe, avec des alliés dans l'OTAN, oui. Du point de vue de la guerre froide, il était très solide comme ministre.
Herman Cohen, répondant aux questions de Bagassi Koura.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Parti communiste au pouvoir sans partage en Chine depuis 1949 marque ses 100 ans d'existence. Lors de la cérémonie d'anniversaire à Pékin, le président Xi Jinping a vanté l'essor irréversible de son pays, jadis colonisé et désormais deuxième puissance mondiale. La Chine est toutefois très critiquée, notamment en matière des droits de l'homme à Hong Kong et dans la région des Ouïghours. Jacques Aristide nous en dit plus.
En ouverture d'un défilé aérien, la symbolique est claire. Pour son centenaire, le Parti communiste entend continuer à guider la Chine. L'événement est pour le PCC l'occasion d'afficher ses réalisations depuis sa fondation clandestine en juillet 1921 à Shanghai, dans l'ex-concession française. Dans la capitale, rares sont les voix qui s'élèvent pour contester le bilan du régime, lequel a accru sa répression de la dissidence sous Xi Jinping, arrivé fin 2012 à la tête du parti et donc du pays. Qin, une habitante de Pékin.
Le parti nous a fourni un bon développement national. L'ordre social s'améliore de plus en plus. L'économie a également toujours été en plein essor.
Devant une foule de jeunes et de membres du parti réunis sur la place Tiananmen, d'où son lointain prédécesseur Mao Zedong avait proclamé la République populaire en 1949, le président Xi Jinping a usé de forts accents patriotiques. Le temps où les Chinois pouvaient être foulés aux pieds, où ils souffraient et étaient opprimés, est à jamais révolu. Le peuple chinois s'est levé, dit-il.
Le Parti communiste chinois et le peuple chinois déclarent solennellement au monde entier, par leur lutte courageuse et tenace, que la nation chinoise a fait une grande avancée, se levant, gagnant en richesse et en force, avec la réalisation du grand rajeunissement de la nation chinoise, entrant dans un processus historique irréversible.
Et cette mise en garde de Xi Jinping, le peuple chinois ne permettra jamais à des forces étrangères de l'intimider, de l'opprimer ou de l'asservir. Quiconque à s'y risquerait sera anéanti devant une grande muraille d'acier édifiée par 1,4 milliard de Chinois. Il a également parlé de la sortie de centaines de millions de personnes de l'extrême pauvreté. À l'international, entre Covid, traitement des Ouïghours et menaces contre Taïwan, l'image de la Chine s'est dégradée dans nombre de pays occidentaux, d'après une étude du centre de recherche américain Pew. D'importants effectifs policiers ont été déployés à Hong Kong ce jeudi afin de réprimer toute manifestation à l'occasion de cet anniversaire qui correspond aux 24 ans de la rétrocession de l'ex-colonie britannique à la Chine, mais des Hongkongais vivant au Japon ont tenu à faire entendre leur voix. Toujours à l'occasion de cet anniversaire, quatre journaux nordiques ont publié une lettre ouverte à Xi Jinping pour dénoncer les atteintes à la liberté de la presse à Hong Kong. La semaine dernière, le principal organe pro-démocratie hongkongais, le quotidien Apple Daily, a été contraint de fermer après le gel de ses actifs.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebudia et de Michel Joseph à la mise en ondes.
Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.